Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez à travers la RDC et ailleurs dans le monde. Merci de nous accorder votre confiance. Bienvenue dans la grande édition de 18h sur Radio Kapi. Je suis Gisèle Cage et je vous accompagne pendant les prochaines minutes. Voici les principaux titres de cette édition. Lubero face à la menace d'un nouveau cycle de violence. L'arrivée de renforts de l'AFC M23 dans plusieurs localités du sud du territoire ravive les craintes d'une reprise imminente des combats et provoque de nouveaux déplacements de population. Mbujimayi, la flambée du carburant frappe les ménages. L'essence et le diesel frôlent désormais le 6000 francs congolais le litre. Une hausse qui pèse lourdement sur le transport, les activités économiques et le pouvoir d'achat des habitants. RDC, Rwanda, cap sur la haie. Pourquoi Kinshasa saisit la justice internationale? CIG, CPI, qui juge les États, qui poursuit les responsables? Pour comprendre les enjeux de la démarche congolaise contre le Rwanda, décryptage avec le professeur Chibangu Kalala, spécialiste du droit international public. Un entretien clair, pédagogique et sans détour à suivre en fin de journal. Le spectre d'une nouvelle flambée de violence aurait fait surface dans l'est de la RDC, dans les territoires de Lubero, en Nord Kivu. Les populations vivent à nouveau au rythme de la peur et de l'insécurité. Des mouvements, des renforts militaires attribués à l'AFC M23 sont signalés depuis près d'une semaine dans plusieurs localités du sud du territoire. Hommes, armements et équipements militaires seraient en cours du déploiement selon des sources locales. Une situation qui ravive les craintes d'une reprise imminente des affrontements et pousse déjà plusieurs familles à abandonner leur village pour chercher refuge dans des zones jugées plus sûres. Dans une région encore marquée par les affres des conflits armés, l'angoisse d'un nouveau cycle de violence est bien réelle. Les précisions de Martial Papimukeba.
Selon des sources de la société civile et des sources sécuritaires, ces renforts sont composés notamment d'armes lourdes et d'armes d'appui. Une évolution qui contraste avec les retraits observés en mars dernier dans une partie de cette zone. La société civile des Lubero estime que ces redéploiements pourraient annoncer une reprise des offensives de l'AFC M23. Son président Muindo Tafuteni évoque déjà des déplacements de la population vers des localités jugées plus sûres.
Confirmons le renforcement des positions du M23 sur les lignes de front à Kichombiro, à Limbongo et Bingi, Buleusa, Katekou. Cela n'a pas manqué à occasionner des mouvements de populations qui se sont retrouvées soit à Kipese, d'autres à côté d'Alimbongo et d'autres à Kaeri, Mkasuo, même à Lubero. Le fait qu'on voit des militaires qu'on attendait se retirer, encore renforcer de nouveau leurs équipes, probablement il y aura encore affrontement.
Des sources sécuritaires confirment également les renforcements des positions des combattants de l'AFC M23 dans plusieurs localités du sud du territoire des Lubero. Elles ne précisent toutefois ni l'ampleur de ces renforts, ni leurs objectifs. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pendant que l'inquiétude grandit à Lubero face à la menace d'une reprise des combats, d'autres populations de l'est de la RDC continuent de payer le lourd tribut de l'insécurité. En Ituri, la situation humanitaire reste particulièrement alarmante dans les territoires de Mombasa situés à 165 km au sud-ouest de Bunia. Plus de 80 000 personnes déplacées et ont fui les attaques de rebelles ADF depuis le début de l'année vivent toujours sans assistance alimentaire. Face à cette urgence humanitaire, la société civile tire la sonnette d'alarme. Elle appelle le gouvernement et les organisations humanitaires à une intervention rapide et plaide également pour un renforcement des opérations militaires afin de favoriser le retour des déplacés dans leur village. Le point de la situation avec Isaac Remoyope.
Depuis le début de l'année, les attaques répétées des rebelles ADF ont contraint des milliers d'habitants à abandonner leur village dans les territoires de Mambasa. Parmi les localités les plus touchées figurent Babesoua, Muchacha, Bafuakoa, Salate, Tepe, Itembo et Bandegaido, aujourd'hui presque entièrement vidées de leurs habitants. La majorité des personnes déplacées se réfugient à Mambasa Centre et à Nyanya, où elles sont accueillies dans des familles hôtes. Mais leurs conditions de vie restent très difficiles. Selon la société civile du Congo, l'accès aux champs est fortement limité, aussi bien pour les déplacés que pour les communautés d'accueil, en raison de la présence des ADF dans les environs. La société civile appelle le gouvernement et les partenaires humanitaires à fournir une assistance d'urgence à ces milliers de sinistrés. Elle demande également un renforcement de la présence des FARDC avec l'appui des partenaires afin de neutraliser les rebelles et de créer des conditions de retour sécurisées des déplacés dans leur village. Marie-Noël Anotane.
Humanitaire. C'est encore préoccupant. Depuis le début de l'année, avec toutes les incursions, les 300 des déplacés n'ont pas encore été assistés. Il y a toujours tentative des incursions.
Selon la société civile, seuls quelques 750 ménages ont bénéficié d'une assistance en espèces de l'ONG Caritas, en plus de quelques initiatives privées ayant permis de soutenir un nombre limité de familles. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au-delà des combats, les conséquences de la guerre continuent de marquer durablement de milliers de vies en Nord Kivu. Chaque année, près de 2000 personnes bénéficient du programme de réadaptation physique du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Parmi elles figurent de nombreux blessés de guerre amputés, contraints de réapprendre à vivre grâce à des prothèses, mais aussi d'anciennes victimes qui reviennent pour l'entretien ou le remplacement de leur appareils. À Goma, cette prise en charge est assurée en partenariat avec le centre Shirika Umoja qui offre gratuitement ce soin avec l'appui du CICR. Mais dans un contexte marqué par la persistance des conflits et l'augmentation de besoins, ce travail humanitaire fait face à des multiples défis. Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles de la prise en charge des personnes amputées? Élément de réponse avec Alexandre Lawaï, chef du programme de réadaptation physique du CICR au Nord Kivu. Il est au micro de Rosalie Zawadi.
Donc chaque année, on prévoit au maximum 4000 bénéficiaires. On n'est pas limité beaucoup plus au Nord Kivu, mais on a aussi d'autres centres. Mais au Nord Kivu, c'est le foyer, l'épicentre où on a beaucoup de blessés et beaucoup de patients qui nécessitent l'appareillage. On peut aller dans les 2000. Et ce qui est important sur ces 2000 bénéficiaires qui sont attendus dans ce centre, environ 80% sont liés direct au conflit. Comme on prend en charge toutes les couches d'individus, que ce soit civil, militaire, homme, enfant, une tendance beaucoup plus directe liée au conflit qu'on remarque beaucoup plus d'hommes. Alors, on a beaucoup de défis. Si on compte les techniciens qualifiés qui doivent travailler dans ce centre de réadaptation, on est en nombre très insuffisant. Et puis, dans le contexte où il y a encore l'épidémie qui sévit, où les fermetures des frontières, l'inexistence des banques, on a des problèmes de cash pour faire fonctionner les centres. Et puis, avec la fermeture des axes, les bénéficiaires pour quitter de leur zone pour venir au centre, ça est un sérieux problème.
Pour répondre au déficit de personnel spécialisé, le CICR investit également dans la formation des futurs techniciens orthoprothésistes à travers l'octroi des bourses d'études. En parallèle, l'organisation rapproche davantage ses services des bénéficiaires en renforçant ses activités à Beni, où les porteurs des prothèses peuvent désormais assurer localement l'entretien et la réparation de leurs appareils. Fuir la guerre, perdre ses repères et faire face à la précarité, c'est le quotidien de nombreuses femmes déplacées au Sud Kivu. Pour leur apporter un soutien concret, plus de 60 d'entre elles ont reçu des kits de dignité à Mukongola, près de Bunyakiri. Une action menée par le club de filles reporters dans le cadre de ses efforts en faveur de la santé sexuelle et reproductive et de la protection de la dignité des femmes et de filles affectées par les violences. Le récit de Ronelyn Timbonera.
Les kits de dignité distribués étaient composés des savons de toilette, des savons de lessive, de brosses à dents, des sous-vêtements, des seaux ainsi que des serviettes hygiéniques réutilisables. Selon Simon Miona, coordinateur de la structure, ces femmes congolaises déplacées depuis plusieurs mois sont confrontées à de nombreux risques sanitaires en raison des conditions précaires dans lesquelles elles vivent. Bien que modeste, cette assistance vise à apporter un soutien à des femmes particulièrement vulnérables. Parmi les 60 bénéficiaires, 5 femmes ayant récemment récemment accouchés dans les camps ont également reçu des couvertures pour bébés, des bassines, des serviettes hygiéniques et du savon des lessives. Pour faire face aux intempéries, des bâches leur ont été remises afin de renforcer leurs abris de fortune en complément d'une ration alimentaire. Très émus, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers les clubs des filles reporters de Bouniakiri. Elles estiment que cette aide constitue un véritable soulagement dans un contexte difficile, affirmant n'avoir reçu aucune assistance depuis leur déplacement. Cette action du club des filles reporters compte parmi les rares initiatives de soutien aux déplacés d'ici de Mukongola, dans le territoire des Kalehe. Dans cette région, les besoins humanitaires demeurent immenses en raison de la persistance des affrontements entre les Wazalendo et les rebelles du M23.
Après plusieurs mois de déplacement et de précarité, des milliers de déplacés reçoivent un appui pour subvenir à leurs besoins alimentaires dans le territoire de Moba. Plus de 6000 déplacés installés dans différents sites, notamment à Kapango, Kirungu et Mulonde, bénéficient d'une assistance monétaire distribuée par l'ONG Vipatu grâce au financement du Programme alimentaire mondial. Une aide qui offre davantage de flexibilité aux bénéficiaires dont l'acquisition des denrées alimentaires. À cette occasion, le responsable du projet sensibilise les déplacés à une gestion responsable des fonds reçus. Nous écoutons Spalax Kitenge, chef de bureau des Vipatu, dont cet extrait est sélectionné par Paulin Munanga.
On a commencé depuis le 20 avec la distribution des cartes de ration. On a fini la distribution des cartes de ration et on a commencé à payer les cash. C'est aujourd'hui qu'on va clôturer avec le site de Kapango. Sur le 6787 ménages prévus dans ce site à distribuer, nous sommes déjà à 6400 et quelques. Et à Likasi, ça commence demain. On commence déjà le paiement. On commence déjà les cash. Et à Kasenga, on a commencé hier et on continue aujourd'hui avec la grande partie en espérant que demain, avant midi, on aura déjà à terminer Kasenga. La dernière phase sera au mois d'août, parce que cette ration, c'est pour le mois de juin et juillet. Les difficultés vraiment sont nombreuses par rapport aux activités qu'on a menées. La première difficulté qu'on a rencontrée, c'est l'incompréhension de nos bénéficiaires vis-à-vis de la sensibilisation qu'on a donnée aux bénéficiaires. Nous appelons à nos bénéficiaires de bien vraiment gérer la ration qu'ils ont reçue. Nous voulons à la prochaine distribution voir l'amélioration de vie par rapport à celle qu'on a vue au départ.
Dans l'actualité économique à présent, direction le Kasaï oriental, où la hausse du prix du carburant préoccupe la population de Mbujimayi. Après plusieurs jours de stabilité, le litre d'essence comme celui du diesel connaît une hausse brutale, passant de 4000 à 4500 francs congolais à près de 6000 francs. Une augmentation qui impacte déjà le coût du transport et le pouvoir d'achat des ménages. Les opérateurs du secteur pétrolier justifient cette situation par les répercussions des tensions internationales sur le marché des hydrocarbures. Quel est l'impact concret de cette hausse sur la population? Élément de réponse avec Esther Dalafina.
Dans la ville de Mbujimayi, les nouvelles pancartes affichées devant les stations-service ne laissent aucun doute. Le litre de carburant coûte désormais 6000 francs congolais, une augmentation brutale alors qu'il se vendait encore à 4000 ou 4500 francs congolais il y a une semaine seulement. Christian Kabeya, vendeur en gros de produits pétroliers, confirme cette hausse et parle d'une situation inattendue mais difficile à contourner.
Le carburant, nous payons localement. Il nous a dit que non, il y a une rareté.
Pour Kalenga Iwanzembele, président de la société des importateurs de produits pétroliers du Kasaï, deux facteurs expliquent cette flambée.
La première cause, c'est la guerre entre les États-Unis et l'Iran. La deuxième cause, c'est l'interruption des trafics maritimes. Le stock qui était sur le marché est en train de diminuer.
Sur le terrain, les effets sont immédiats. Sami Kaba, le conducteur de moto, affirme que les recettes journalières ont chuté.
Les clients refusent les primes. Je ne parviens pas à réunir l'argent pour les versements.
Franklin Hippo, le client, explique que cette hausse déséquilibre complètement le budget familial.
Je devais arriver à l'aéroport, j'ai l'habitude de payer 2000 francs. Là, j'étais obligé de payer 3500.
Signalons enfin que les importateurs déplorent l'interdiction de transporter du carburant depuis l'Angola, une mesure qui, selon eux, accentue davantage la pénurie et la hausse des prix. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Développement, une avancée majeure vient d'être enregistrée dans le secteur coopératif au Maniema. Pour la première fois, plusieurs coopératives de la province disposent désormais de certificats d'immatriculation, une étape clé vers leur formalisation et leur contribution au développement local. Cette avancée marque l'une des retombées majeures de la journée internationale des coopératives célébrée le 4 juillet dernier à Kindu. À travers cette démarche d'enregistrement, les autorités entendent renforcer la structuration du secteur coopératif, encourager l'entrepreneuriat local et favoriser la création d'emplois au profit des communautés. Un message porté par le ministre d'État en charge du développement rural, Grégoire Mouchaël Moutombe, qui a présidé la cérémonie. Le point avec Florence Kizalunga.
Au total, 23 sociétés coopératives sont à l'honneur après obtention de leur certificat d'immatriculation. Un motif de joie pour Dafros Bitungwa de la coopérative Mama Wama Badiliko.
Ce n'est pas facile d'obtenir l'enregistrement de la coopérative. Cet enregistrement-là prend du temps pour que vous soyez formalisé. Mais nous, en un clin d'œil, la coopérative a été enregistrée.
Le point focal des sociétés coopératives minières artisanales pense qu'avec ces documents, ils vont maintenant bien travailler. Boulassila qui subit.
En tout cas, ces certificats d'immatriculation nous donnent d'office ce qu'on attend par personnalité juridique.
Une occasion pour le gouverneur Moussa Kabankoubi de bien les orienter afin de participer au bien-être de la province.
Sur base des conseils nous donnés, pensons que nous devons maintenant donner du contenu à ces coopératives pour qu'elles puissent participer au développement socio-économique de notre province.
Après sa visite dans les tables d'exposition, Grégoire Mouchaïl Moutombe encourage les sociétés coopératives du Maniema.
D'abord, je les félicite énormément parce qu'ils ne sont pas au point zéro. Ici, j'exhorte mes frères et sœurs, membres des coopératives, de continuer le travail. Qui n'hésitent pas, nous sommes là pour les appuyer.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Elles envahissent les rues, obstruent les caniveaux et défigurent certains quartiers de Kinshasa. Les bouteilles en plastique constituent l'un des principaux défis environnementaux de la capitale. Mais derrière cette pollution se développe une activité porteuse d'espoir. De plus en plus d'habitants se lancent dans la récupération des déchets plastiques, une initiative qui leur permet de gagner leur vie tout en contribuant à l'assainissement de leur environnement. Le reportage de Joyce Masanka.
Dans la capitale congolaise, les déchets plastiques, en particulier les bouteilles, occupent une place de plus en plus visible dans le paysage urbain. Malgré les opérations d'assainissement menées ça et là, ces déchets continuent de s'accumuler dans les rues, le marché et les caniveaux, entraînant des problèmes d'insalubrité et de pollution environnementale dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Pour ces récupérateurs, cette activité constitue avant tout un moyen de gagner leur vie et d'assurer aux besoins de leur famille.
J'ai choisi ça parce que je n'ai pas trouvé d'autre emploi. Chaque jour, je parcouris les rues pour ramasser les bouteilles en plastique que je vends ensuite. Ce n'est pas facile, mais ça me permet de nourrir ma famille.
Un des responsables du centre de recyclage basé en Djili explique ceci.
Nous récupérons les bouteilles en plastique auprès des collecteurs. Du plus, nous faisons le tri. Après cela, le plastique est envoyé vers les unités de transformation pour être recyclé en nouveaux produits comme du bidon.
Malgré les efforts de récupérateurs du recyclage, la pollution plastique demeure un défi majeur à Kinshasa.
Actualité internationale.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé ce lundi 6 juillet la dissolution de ses instances dirigeantes dans la bande de Gaza. Cette décision marque un tournant majeur après près de 20 ans de contrôle du territoire palestinien. Selon un responsable des médias du gouvernement du Hamas, Mohamed Al-Farah, président du comité d'urgence gouvernemental, a officiellement présenté sa démission. Cette étape ouvre la voie à l'installation d'un comité technocratique chargé de gérer les affaires courantes des Gaza. Le comité national pour l'administration des Gaza a été créé dans le cadre des négociations ayant conduit au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en octobre 2025. L'initiative a été soutenue par le Conseil de paix mis en place par le président américain Donald Trump.
L'invité.
La RDC contre le Rwanda devant la justice internationale. De quoi parle-t-on exactement? De la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale? La question suscite de nombreuses interrogations depuis que la République démocratique du Congo a annoncé avoir officiellement saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda. L'annonce a été faite la semaine dernière par le représentant permanent de la RDC au Conseil de sécurité de Nations Unies lors de la réunion du 27 juin consacrée à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Depuis, une confusion persiste dans l'opinion publique. Beaucoup assimilent la Cour internationale de justice chargée de régler le différend entre États à la Cour pénale internationale qui poursuit les individus accusés de crimes les plus graves, notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou encore les génocides. Pour dissiper toute ambiguïté et mieux comprendre les enjeux juridique de cette initiative engagée par Kinshasa contre Kigali. Nous recevons ce soir le professeur Tshibangu Kalala, spécialiste du droit international public. Il répond aux questions de Benjamin Mudumbi.
Professeur Tshibangu Kalala, bonjour.
Bonjour.
Professeur, en deux termes simples, quelle différence établissez-vous entre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale?
La Cour internationale de justice, c'est une cour permanente créée par l'ONU pour faire quoi? C'est pour régler de manière pacifique les conflits qui peuvent opposer des États. De manière pacifique pour éviter des guerres. Parce qu'on a vu, il y a eu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, qui ont provoqué des destructions humaines, des chez les biens. Et donc, il faut éviter de recourir à la guerre pour résoudre les conflits entre États. Donc, la Cour internationale de justice a été créée par l'ONU, donc par les États, pour résoudre de manière pacifique les différends qui peuvent surgir entre eux. Cette Cour ne juge que les États et pas les individus. C'est le cas que nous avons eu avec RDC contre l'Ouganda et contre la Guinée-Conakry. Et même la RDC contre la Belgique dans les passés récents. En revanche, la Cour pénale internationale, cette Cour ne peut pas juger les États. Cette Cour n'est là que pour juger des individus. Nous avons le cas dans notre pays où il y a eu des Congolais qui ont été jugés devant cette Cour. Thomas Lubanga, Ngodiolo, Germain Katanga, l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui ont été jugés par la CPI. Il n'est là que pour juger des individus soupçonnés d'avoir commis des infractions internationales. En résumé, c'est ça la différence entre les deux cours.
Alors, professeur, pour les cas de la RDC aujourd'hui qui a saisi officiellement la Cour internationale de justice contre les Rwandais, il y a peut-être des personnes, donc des individus qui sont impliqués dans des crimes. Alors, pourquoi la RDC opte aujourd'hui pour la CIG et non la CPI?
Oui, il y a une confusion dans l'opinion publique entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Peut-être aussi parce que ces deux cours siègent dans la ville de La Haye. Et pourquoi les gens font un peu de confusion. Et pourquoi la RDC a choisi la CIJ au lieu de CPI? Comme je vous l'ai dit, la Cour internationale de justice juge les États et pas les individus. C'est la raison pour laquelle la RDC, qui est agressée par le Rwanda qui tue une population matin et soir, donc il fallait saisir la CIJ qui est compétente pour juger les États pour que cette Cour puisse aussi juger le Rwanda. Donc on ne pouvait pas aller accuser le Rwanda devant la CPI, Cour pénale internationale, parce que la Cour pénale internationale ne juge pas les États, juge les individus. Maintenant, la Cour pénale internationale est en train de mener des enquêtes dans notre pays depuis que la guerre a éclaté à l'est de notre pays, guerre menée par le Rwanda avec ses soldats, avec le M23. Et la CPI est en train de mener des enquêtes. Nous espérons que dans un proche avenir, la CPI pourrait lancer des mandats d'arrêt pour pouvoir procéder à l'arrestation des criminels rwandais ou congolais qui sont impliqués dans des massacres, des tueries, dans des crimes de guerre, des crimes de génocide ou des crimes contre l'humanité.
Professeur, d'après vous, quelles pourraient être les chances d'aboutissement de la RDC cette fois-ci?
C'est vrai, nous sommes à la troisième tentative contre le Rwanda. Il y a eu déjà deux requêtes en 1999, en 2002. La CIJ avait rejeté la demande de la RDC en 2006, le 3 février 2006. Dans un arrêt, en déclarant qu'elle n'est pas compétente pour juger le Rwanda. Ça fait 20 ans. Cette fois-ci, le gouvernement est revenu pour la troisième fois devant la CIJ pour poursuivre le Rwanda, surtout avec les derniers événements depuis 2021, où le Rwanda est en train de massacrer des Congolais et de notoriété publique internationale. Donc, quelles sont les chances de réussite? Nous sommes au début du procès. Quand on va dans un procès, on ne peut pas dire qu'on va gagner ou qu'on va perdre, parce que la décision appartient à la Cour. Donc, nous espérons que le gouvernement, avec les équipes de juristes qui le conseillent, ils vont bien présenter le dossier devant la Cour pour convaincre la Cour que cette fois-ci c'est la bonne et amener la Cour d'abord à se déclarer compétente pour juger le Rwanda dans sa première phase et deuxième phase, aller au fond pour apporter des preuves crédibles et solides de l'implication du Rwanda dans les massacres de nos frères et sœurs à l'est de la République. Et attendons que la Cour se prononce à la fin de la procédure.
Professeur Tshibangu Kalala, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Le professeur Tshibangu Kalala, spécialiste du droit international public, nous aidait à mieux comprendre la différence entre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, ainsi que les enjeux de la procédure engagée par la RDC contre le Rwanda. Il était l'invité de Benjamin Mudumbi. C'est la fin de cette grande édition des 18h. Merci de votre fidélité. Au micro, Gisèle Cage, à la mise en onde, Alain Goy, superviseur Jean Gandou, coordinatrice Élisée Chikota. Pour plus d'infos, plus d'analyses et plus de reportages sur www.radiocapi.net, Facebook, X, YouTube et les autres plateformes numériques de la radio Okapi. Bonne soirée sur la radio de la paix.